Bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez tous bien? Wow. Si c'est pas la première fois, mais c'est toujours un peu. Impressionnant de passer. Sur la parole de Dieu, de prêcher l'évangile. Je veux confesser que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force et de sagesse. Et on peut dire Hosanna. Hosanna, Dieu sauve. Sauve-nous, Dieu. C'est un cri de détresse, un cri d'appel. On chante comme un cri de louange, mais c'est une prière. Hosanna, sauve du haut du ciel. Et nous voulons parler de grâce, d'une grâce abondante. Nous voulons parler de ce message qui est au cœur de l'évangile, de la grâce de Dieu. Et ce matin, les différentes prières nous ont parlé de cette grâce de Dieu. Cette grâce que nous ne méritions pas. Et justement. Nous allons prendre ce texte, 1 Timothée, chapitre 1, pardon, et du verset 12 à 17. 1 Timothée, chapitre 1, et verset 12 à 17. Et le temps de trouver dans nos Bibles, que ça s'affiche. Quelques mots du contexte. Hein. Donc, on a cette lettre de Timothée qui fait partie des écrits de ce qu'on appelle les pastorales. Il y en a deux. Un et deux Timothée, la lettre à Tite. Donc, c'est Paul qui écrit à ses jeunes collaborateurs et leur donne des instructions concernant le bon fonctionnement de l'Église. Et dans ce chapitre premier de cette première à Timothée, Paul va donner le ton concernant ses préoccupations un peu les plus profondes. Et d'entrée de jeu, dans les premiers versets, après les salutations de base, Paul interpelle tout de suite son collaborateur, le jeune Timothée, concernant les fausses doctrines et les faux enseignants qui s'immiscent dans l'œuvre de Dieu. En tant que responsable, Timothée va devoir combattre à son tour ses fausses doctrines. Et le but de cette opposition, de ce combat, n'est pas d'entraîner ses auditeurs dans des débats stériles, mais comme il le dit au verset 5, le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une voix sincère. Dans sa défense de l'Évangile, dans les versets que nous allons lire, nous allons voir que l'apôtre nous donne son témoignage et l'impact de l'évangile sur sa vie. Il va parler de surabondance de grâce. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12 à 17. Je vais lire dans la version Semeur. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui, autrefois, l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a été compatissant envers moi car j'agissais par ignorance, pardon, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a été compatissant envers moi. Pour cette raison, Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Ô roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit l'honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Seigneur, nous voulons te remettre ta parole entre tes mains. Ta parole est la vérité, ta parole est là pour nous rendre libres. C'est ta parole qui nous a affranchis, ta parole qui nous transforme, c'est ta parole, Seigneur, qui nous conduit et qui nous mène à toi. En ce matin, nous voulons que tu fasses silence en nos cœurs et que nous puissions découvrir ou nous remémorer cette bonne nouvelle de l'Évangile. À travers ce témoignage de l'apôtre Paul qui nous a laissé dans les Saintes Écritures, que tu convainques aussi les cœurs, s'il te plaît. Et nous prions que toute résistance, que toute opposition se taise dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, afin que tu disposes nos cœurs à ta parole. Sers-toi de moi, s'il te plaît. Que ton esprit me guide encore. Et non pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est vrai, chers bien-aimés, que nous vivons des temps difficiles. La parole de Dieu, le message de l'Évangile est à certains égards obscurci et mis à mal. D'un côté, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, et de ce côté-là, ça ne devrait pas nous étonner. Puisque l'apôtre Jean nous dit que dans son prologue, que lorsque Christ est venu parmi les siens, lui qui est la lumière, les ténèbres ne l'ont pas accepté. Les siens ne l'ont pas reconnu, on l'a combattu. Et nous ne sommes pas plus grands que le Maître, nous disait Jésus. Et s'ils ont combattu le Maître, sachez aussi qu'ils vous combattront. En tant que disciples, ces coups de l'extérieur sont normaux. C'est normal. Ça fait partie de l'ADN de ce monde. D'un autre côté, par contre, il y a des faux enseignements. Et déjà, depuis l'époque de l'apôtre Paul, dans cette nouvelle ère où nous a introduit Jésus-Christ à sa venue, l'évangile est prêché, mais des mauvais docteurs, des faux docteurs s'immiscent. Ces enseignants qui veulent, dans cette partie-là, assujettir les hommes à la loi, ils s'immiscent et veulent édulcorer l'évangile. Et un peu plus tard, dans le chapitre 4, l'Esprit dit expressément que, comme signe des derniers temps, une multitude de faux enseignements feront leur entrée dans l'Église. Et c'est ce que nous vivons. Et là non plus, ça ne devrait pas nous étonner. Là non plus, ça ne devrait pas nous étonner. Mais au contraire, gardez ce dépôt, et c'est cela que l'apôtre Paul nous appelle, à garder ce dépôt. Cela, il appelle à Timothée de veiller à cela. Et ce matin, nous voulons, quand bien même les luttes, les paroles dites, proclamer le message de l'Évangile. Parce que nous savons que dans un temps de pandémie, encore plus, dans ce temps où nous disons que les jeunes se suicident, qu'il n'y a plus d'espoir, que la psychiatrie ne sait plus donner la tête, nous croyons que Christ est l'espoir. Nous croyons que Dieu a encore une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Et si nous sommes ici, dans cette salle, c'est peut-être pour nous réconforter dans cette bonne nouvelle, dans cette voie que nous avons choisie, mais aussi pour dire que Dieu appelle des hommes et des femmes à sa suite. Nous vous allons parler de cette grâce, la grâce de Dieu. Le cœur de l'Évangile, la grâce de Dieu. La faveur de Dieu pour ses enfants. Cette grâce qui a touché un homme, l'apôtre Paul, et nous allons voir son témoignage, et qui, à la suite de l'apôtre Paul, a touché des millions, des milliers, des milliards d'hommes, des individus de toutes nations, de toutes langues, dont nous faisons partie. Ce que Jésus a fait pour l'apôtre Paul, il a fait pour toi, il a fait pour moi. Il est capable, et si nous l'annonçons encore aujourd'hui, c'est qu'il est capable de le faire aujourd'hui. Et nous dire que la grâce, c'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de réconciliation. La grâce de Dieu est une œuvre de réconciliation. Si on peut donner une courte définition de la grâce, on va dire que c'est un changement de disposition de Dieu envers l'homme pécheur. La parole nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel en Romains 1 contre toute impiété. Depuis la chute en Adam, nous sommes entrés en rébellion face à Dieu. Et la sainteté de Dieu est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il a cette disposition. Mais si Dieu a changé par amour, parce que Dieu est amour, en lui-même, il a fait ce serment. Et on parle de l'alliance de la rédemption qui est en Dieu lui-même. Père, Fils et Saint-Esprit se sont concertés. Je dis, mais on ne peut pas laisser notre création ainsi. L'homme n'a rien à voir dans cette décision. L'homme n'a rien à voir dans cette décision. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a entrepris cette démarche. C'est Dieu lui-même qui a entrepris cette démarche pour nous réconcilier avec lui. Le péché en l'homme le rend captif. L'homme naturel ne peut se soucier des choses de Dieu. Il ne peut même pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas se soucier des choses de Dieu. Ça le rend captif. Nul ne cherche Dieu. Pas même un seul. Et dans la vie de l'apôtre, nous voyons les effets du péché. Qu'est-ce que Paul dit au verset 14? Moi qui autrefois, je l'ai offensé, persécuté, insulté. Dans une autre version, il dit, verset 13, pardon. Dans une autre version, il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Nous voyons comme un engrenage, comme un cycle de plus en plus mauvais dans le péché. Plus il y a péché, plus il y a des liens, il y a des chaînes qui nous captivent et qui nous éloignent de Dieu. Et comme cela vient du cœur, nos cœurs ne peuvent pas regarder à Dieu. Mais face à cette escalade du péché, l'apôtre va dire que là, il y a eu une surabondance de grâce. Face à ce cycle du péché, va agir une surabondance de grâce. Dieu vient chercher un homme pécheur. Celui qui était en route, sur la route de Damas, pour aller persécuter avec une lettre, persécuter des chrétiens, se retrouve faire face à Christ, le Christ ressuscité. Un changement radical s'opère dans sa vie. Et là, on voit que la grâce de Dieu dans la vie d'un homme pécheur, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nos péchés les plus horribles, les péchés qu'on peut commettre les plus horribles, ont trouvé leur solution à la croix de Jésus-Christ. Nos péchés les plus horribles ont trouvé leur place à la croix de Jésus-Christ. Ce pardon-là, il dépasse l'entendement. Et nous croyons que ce que Dieu a fait pour l'apôtre Paul, ce pécheur qui voulait, à l'époque, on pourrait dire que l'apôtre Paul, même s'il avait des lettres, c'était quasiment un terroriste. Dieu est capable de changer le cœur d'un terroriste. Dieu est capable de changer le cœur d'un terroriste. Et nous croyons que ce que Dieu peut faire, a pu faire pour des millions d'hommes avant, il peut le faire encore aujourd'hui. Il invite chaque homme et chaque femme à une réconciliation avec lui. Et c'est cela que nous faisons, exhortant, encourageant nous qui avons reçu cette nouvelle vie, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que l'histoire, le péché n'est pas une petite affaire face à Dieu. Le péché n'est pas une petite affaire face à Dieu. Dieu est un Dieu qui est saint. Et je veux croire, pour lever cette tentation qu'on puisse dire, mais moi, je n'ai pas commis de, je n'ai pas commis de grand péché, je n'ai tué personne, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui n'a jamais péché ici? Qui peut se targuer de ne jamais avoir péché dans sa vie? As-tu nourri une mauvaise pensée? Ou peut-être un petit mensonge par complaisance? Peut-être un petit vol. Tu aimes la confiture et tu es passé. Je pense que c'est innocent. Mais la loi de Dieu veut que toute désobéissance a pour conséquence la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous l'avons dit, Dieu a entrepris la réconciliation. La grâce qui est cette œuvre de réconciliation est une œuvre aussi de justice. La grâce de Dieu est une œuvre de justice. Peut-être dans notre compréhension humaine, justice et grâce ne vont pas ensemble, ça ne concorde pas. Et de fait, imaginez qu'un homme vous fasse du tort à votre famille et qu'il soit justement condamné. Le président de l'État décide de le gracier. La grâce du président d'État passe, met la justice de côté. Et si Dieu agissait comme ça, Dieu serait donc injuste. Dieu serait injuste. Donc, ça voudrait dire que Dieu se renierait lui-même. Mais comme Dieu ne peut pas se renier, sa grâce et sa justice marchent de pair. Sa grâce et sa justice marchent de pair. Il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite et que son amour et sa grâce aussi se manifestent. Et pour ce faire, il a envoyé qui? Il a envoyé qui? Certains veulent faire croire que Jésus est un mythe. N'en déplaise. Mais la deuxième personne de la Trinité a quitté son ciel de gloire. Lui qui était dans le sein du Père. Lui qui était dans l'intimité du Père. Dans le conseil du Père. Il a dit, moi j'irai. Moi j'irai. Alors, on lui a fait un corps. Et il est rentré dans ce monde. Misérable. Il n'avait rien pour plaire. Rien n'attirait sur lui le regard. Il était maltraité, méprisé des hommes. Il a poussé comme une faible plante. Oh Jésus. Et peut-être que ceux qui voyaient Jésus, oh, le fils du charpentier. Le fils du charpentier. Ma douzaine savait qui il était. Ne savez-vous pas que je devais faire les affaires de mon père? Mais comme nous l'avons vu avec les ados, même en cela, il n'a pas péché. Il a suivi ses parents, il s'est soumis à ses parents. Jésus a connu la croissance du bébé à l'homme. Et de cette croissance, il a connu les étapes que connaît les hommes. Mais en rien, il n'a péché. Donc le message concerne aussi nos enfants, parce qu'il est venu en tant qu'enfant. Ce message concerne aussi les ados parce qu'il a vécu en tant qu'ado. Ce message concerne les hommes et les femmes mûres parce qu'il était à cet âge mûr. On prend des décisions. Mais il a décidé de vivre sa vie à la gloire de Dieu le Père. On va voir que l'apôtre Paul fait trois déclarations. Dit trois vérités qui sont importantes concernant cette grâce de Dieu. Et on voit qu'il fait un contraste entre sa misère, sa propre misère d'apôtre, celui qu'il était avant. Il dit même qu'il était un type de pécheur face à la miséricorde de Dieu. Verset 15 nous parle de l'incarnation du Fils de Dieu. Jésus est venu dans ce monde. Et nous devons l'affirmer, Jésus est venu dans ce monde. Et cet impact a changé radicalement. La vie a changé la face de cette terre. Et pourquoi il est venu dans ce monde? Non pas, comme dit l'Épître aux Hébreux, pour venir en aide à des anges. Non, il s'est incarné, associé à l'homme, pour venir en secours à l'homme. Il est venu en secours aux des hommes. Il est venu pour faire l'expiation des péchés. Il est venu pour devenir leur divin secours. Il a été lui-même éprouvé dans ce qu'il a souffert. Et de fait, par ce qu'il a souffert, aujourd'hui, il peut encore sauver et peut aussi secourir ceux qui sont dans la souffrance. Il peut secourir ceux qui sont dans la souffrance. Jésus s'est incarné pour cela. Mais aujourd'hui, il est à la droite de Dieu le Père. Appelant des hommes et des femmes à mettre leur confiance en ce qu'il a fait. Il s'est donné une fois pour toutes. Mais il invite encore des hommes et des femmes à venir à lui. Et nous voyons encore cette surabondance de la grâce de Dieu quand l'apôtre au verset 13 nous montre qu'il était prisonnier de ce péché. Moi qui auparavant étais blasphémateur, persécuteur, homme emporté, il m'a fait miséricorde. Parce que quoi? J'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Apôtre Paul fervent. Croyant du judaïsme. Homme instruit, selon les lettres. Et son zèle pour la loi l'a conduit à persécuter. Son zèle n'a pas fait taire sa violence. Au contraire, elle l'a exacerbé. On veut dire que la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Ta spiritualité quelconque ne sauve pas. Jésus sauve. La relation avec Jésus sauve. Et nous voulons encore le dire, la relation avec Jésus, c'est elle qui sauve. L'homme naturel, qui était l'apôtre Paul, nous dit qu'il était lui était impossible de comprendre. Mais il a fallu que Dieu intervienne lui-même. Et comprenons bien, que même le fait de croire, la foi est don de Dieu. La foi est don de Dieu. L'homme naturel, l'homme sans Dieu ne peut pas croire s'il n'est pas renouvelé dans son intelligence. Et on voit que là, c'est l'action de Dieu. Jésus lui-même qui vient ouvrir les yeux de l'apôtre Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Faire du mal à l'enfant de Dieu, ça revient à faire du mal à Christ. Pourquoi me persécutes-tu? Et nous savons que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et c'est par la foi et sur la base de la foi que l'œuvre salvatrice de Christ nous est, que par laquelle Dieu nous déclare juste. Et de fait, nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite dans cette œuvre du salut. Nous acceptons tout par grâce, comme don de Dieu. Ainsi, en comprenant cette œuvre du Seigneur, ça doit nous pousser aussi à la compassion et à l'humilité. Compassion vis-à-vis des uns et des autres, nous exhortant et nous encourageant à la charité. Veillez avec crainte à ne pas faire tomber, à ne pas mettre de piège, d'obstacle pour celui qui marche, pour le frère qui marche à côté de nous. Parce que l'œuvre de Dieu, cette grâce qui a surabondé, ce sacrifice à la croix a coûté à Dieu. La vie de cette personne a de la valeur pour Dieu. Et un autre point que j'aimerais aborder concernant cette grâce, et nous en avons parlé, dit cela dans nos louanges. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est une œuvre de transformation. Quand nous lisons ce témoignage de l'apôtre, nous pouvons être saisis par les parallèles qu'il fait de sa vie sans la grâce, de sa vie sans la grâce et de sa vie sous la grâce de Dieu. Lui qui était un homme, emporté un homme violent, Dieu a fait de lui un ministre de l'Évangile. Dieu a fait de lui un ministre de la parole, un ministre de Christ. Lui qui persécutait Christ est devenu celui qui sert la cause de Christ. La grâce de Dieu ne peut nous laisser comme nous étions auparavant. Cette grâce authentique qui est produite par Dieu seul, par son esprit en nous, ne peut laisser la femme et l'homme inchangés. L'homme d'avant n'est plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nouvelle création. On ne peut pas rester cette même personne. Nous ne pouvons pas rester dans la boue, dans cette boue du péché. Parce que la grâce de Dieu nous délivre de ces œuvres qui nous mènent à la mort. La faveur de l'Éternel dans une vie réoriente fondamentalement le cœur d'un individu. Là où son cœur était axé vers le mal, maintenant il est axé vers le Christ. Et veut porter des œuvres qui mènent à la vie éternelle. La vie du croyant est tournée vers Dieu, vers Christ. Et ce que produit le Christ en nous, c'est la vie. Le cœur qui jadis était soumis à la dictature du péché reçoit une nouvelle force pour dominer le péché. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu en nous. Et peut-être, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu et des normes du Seigneur dans différents domaines de la vie, lorsque nous affirmons ces choses, certaines personnes peuvent nous taxer d'être rétrogrades. Ne pas partager toutes les visions et toutes les versions, par exemple, de l'amour proposé dans notre société fait de nous des personnes intolérantes. Et certains qui se revendiquent aussi de l'Église, parfois séduits par l'hypocrisie, vont à leur tour édulcorer ce message, le changer, le pervertir. par l'appât du gain, avoir plus d'argent. Ils vont pervertir ce message. Mais la grâce de Dieu sur nous ne fait pas de nous des surhommes. La grâce de Dieu sur nous ne fait pas de nous des surhommes. Et parfois, ces enseignements-là font plus de mal que de bien. Si tu es malade, c'est que tu n'as pas la foi. Si tu es pauvre, c'est que tu n'as pas la foi. Si, c'est que tu n'as pas la foi. Ta foi est sans cesse remise en question. Il faut que tu aies beaucoup d'argent pour que on voit que la grâce de Dieu soit sur toi. Cependant, dans la vie de l'apôtre Paul, il était malade. Il a prié avec instance et à trois reprises, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Alors tu peux être malade, tu peux ne pas avoir d'argent, tu peux avoir une situation trouble. Si tu as accepté la grâce, si la grâce du Seigneur est sur toi, oh! Qu'est-ce que c'est ces épreuves? Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Donc les difficultés travaillent pour mon bien. Entre les mains de Dieu, les difficultés deviennent une manière de me façonner. La souffrance entre les mains de Dieu devient une manière de se faire pour qu'il me façonne. Parce que, mais la grâce de Dieu est sur moi. Nous voyons, hein, des hommes riches et pourtant tristes au fond. Mais pourtant, ils sont riches. Et d'autres qui peuvent être rejetés des hommes. Être amis de Dieu. Dieu nous appelle à être ses amis. Et pour notre bien, Dieu peut nous bénir. Mon propos, c'est que Dieu peut nous bénir. Mais est-ce que notre cœur, est-ce que cette bénédiction-là ne nous détournera pas de lui? Et comme Dieu est un bon papa, il va nous préserver dans toute sa force. Parce que son but, c'est de nous amener à lui. Il veut que nous soyons là où il est. Mais de toute notre force, nous voulons affirmer que ce Dieu de grâce, lui, il hait le péché. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. La mort de Christ à la croix est cette preuve. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu est saint. Alors quand il vient te sauver, quand il vient nous sauver, l'homme d'avant, la femme d'avant, est appelé à devenir saint. Soyez saints car je suis saint. La grâce de Dieu sur nous transforme et ne peut nous laisser comme nous étions. Il nous a donné, retirer le vieux vêtement, et nous dépouillez-vous du vieil homme et nous habiller du vêtement de noces. Voulons être habillés du vêtement de noces. Alors, dans cet évangile où venez comme vous êtes, c'est vrai, venez comme vous êtes, mais ne pas abandonner le péché. Non, ça c'est pas l'évangile de Dieu. La faveur de Dieu sur nous nous pousse dans ce processus de transformation. Nous rendre semblables à lui. Et notre Dieu, il est saint. Il ne peut pas nous laisser dans le péché. Et nous avons des exemples d'hommes et de femmes. Et parfois, on peut se dire, dans certains domaines, certains nous disent, ouais, mais si on prend ce même raisonnement pour quelqu'un qui, par exemple, nous avons l'évangéliste Gauthier, Yanis Gauthier, lui qui se droguait, lui qui faisait des braquages. Et si Dieu l'avait sauvé et il continuait de faire des braquages, qu'est-ce qu'on aurait dit? Mais c'est quoi cet évangile? Il faut qu'on reste correct. La parole de Dieu est oui et amen. Dans cette lettre à Timothée, son désir pour ce jeune serviteur, c'est que Timothée comprenne la grâce de Dieu. que Timothée comprenne la grâce de Dieu. Cette grâce authentique qui est portée par le message de l'Évangile. Et montre à Timothée que l'Évangile mérite qu'on se batte. Ce message mérite qu'on se batte, qu'on se donne corps et âme pour ce message de l'Évangile, parce que ce message est capable de sauver des hommes et des femmes. Nous avons vu, essayer de voir ce matin, que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ est ce cœur de message de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que le Créateur de toutes choses a tout mis en œuvre pour nous réconcilier, nous qui sommes hommes pécheurs. Christ, lui, est venu, la deuxième personne de la Trinité. Il est venu pour sauver les hommes de la condamnation à venir. L'homme et la femme les plus vils ne peuvent être inchangés quand ils entrent dans cette alliance, sous cette grâce. Dieu, nous avons vu, transforme des vies, fait de nous ses serviteurs et fait de nous, par adoption, des fils et des filles du Très-Haut. Quel privilège! La grâce de Dieu. La faveur, la grâce de Dieu nous incite à la charité. C'est par la charité, c'est par l'amour que nous pouvons gagner face à ces fausses doctrines. La faveur de Dieu, fait de nous une maison spirituelle qui sert à célébrer, à proclamer son infinie sagesse. Cette faveur de Dieu a pour but, pour chacune de nos existences, que nos vies soient un hymne, une louange à la gloire de Dieu le Père. Dieu veut que notre vie soit une louange à la gloire de Dieu le Père. Un hymne à sa gloire. Au roi éternel, immortel, invisible, à seul Dieu, soit l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te remettre entre tes mains ta parole. Et la vérité, je te prie de pardonner toutes mes imperfections. Mais nous savons que ton esprit, lui, il est parfait et sait parler au cœur. Et nous te prions encore qu'aujourd'hui, que ta parole encore travaille notre conscience. Que toute barrière tombe devant la révélation, Seigneur, de cet amour manifesté en Jésus-Christ. La faveur de Dieu envers nous. Christ s'est manifesté au temps que tu as fixé pour sauver des hommes et des femmes de la condamnation éternelle. Et nous savons qu'un jour, il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et dans cette attente, nous voulons faire partie, Seigneur, de ta maison. Nous voulons être de ceux qui devenons fils et filles du roi des rois. Seigneur, bénis ton peuple, fortifie ceux qui sont fatigués, ceux qui sont affligés. Seigneur, ta grâce nous suffit et que cette vérité soit ancrée dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.
Ouais, merci. Merci Eric pour ce Teddy pour ce message. J'avais ri dans la tête. Voilà, je crois qu'il est temps que tu comprennes la grâce de Dieu. Amen. Il est temps que tu sois transformé. Sinon, c'est ce que il nous disait, hein. Il est temps que tu rentres aussi dans ta guérison. Il est temps aussi que tu sois réconcilié. Aujourd'hui, il est temps que tu prennes une décision. Et quelle décision? La décision tout simplement de suivre Jésus. Sans tarder. Amen. Merci Teddy. Que Dieu encore te fortifie. Je voudrais appeler notre frère, notre très cher frère, hein, Émile, et vous inviter à vous tenir debout pour la prière.